téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. On est très fiers. C'est très bien.
Allez, il est presque 9h40 et c'est un démarrage en trombe pour l'instant même.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Qu'y a-t-il au-delà des murs ? Quelque chose de tapis, de terrifiant, de refoulé. C'est l'inconnu auquel on s'attend, pourtant l'invisible qu'on ne veut pas voir, le rationnel qu'on ne veut pas comprendre et qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça, une maison hantée, plus qu'un décor, une leçon de psychanalyse lourdement référencée, car la télé ne peut plus s'emparer d'un tel sujet sans y intégrer deux siècles de littérature, de cinéma et peut-être même de jeux vidéo. Au-delà des murs, mini-série sur Arte 3. Trois épisodes d'un bloc ce soir, je reçois son scénariste Marc Herpoux et comme il est venu bras dessous, c'était pas prévu au programme avec le réalisateur Hervé Admar, et ben on l'a fait entrer aussi en studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le troisième larron, ce sera Romain Nigitas. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Spécialiste série de l'instant M, j'étais persuadée, moi naïve, que la série Fantastique c'était pas français du tout, et ben je me suis gourée.
L'instant M. Le rendez-vous média de France Inter.
Allez, avant de parler télé, sachez que les chiffres d'audience de la presse écrite sont tombés. Le quotidien national le plus lu, c'est l'Équipe, en légère baisse toutefois, malgré l'euro. Derrière vient Le Monde, qui progresse, alors que Le Parisien, aujourd'hui en France, troisième place du classement, accuse la plus grosse perte de lecteurs. Ensuite, Le Figaro, et puis en queue de peloton, Libération, qui poursuit sa chute, très préoccupante, ainsi que L'Humanité, qui ne cesse de plonger. À noter que Le Monde est le premier canard que vous lisez sur vos ordi, vos tablettes et vos smartphones, qu'il est suivi par le gratuit 20 minutes qui gagne beaucoup, beaucoup de lecteurs numériques, segment sur lequel Libé a aussi progressé. Côté presse magazine, c'est la dégelée, les magazines télé et féminins plongent, les news magazines, l'Obs, l'Express, pourtant une nouvelle formule, Le Point perd beaucoup de public, il n'y a que Paris Match qui peut être fier de son bilan, et oui, et L'Équipe magazine aussi. Alors, je l'ai dit, les séries françaises fantastiques se multiplient depuis quelques années. En même temps, c'est très récent. Les Revenants, Canal+, Trépalium, Arte, qu'on n'avait pas beaucoup aimé, je crois.
Moyen.
Voilà. HeroCorp sur France 4, c'est du fantastique, oui. C'est.
Il y a des super-héros avec des super-pouvoirs quand même.
C'est vrai, d'accord. Allez, hop, Le Secret d'Élise sur TF1. Et puis maintenant, Au-delà des murs, dont on va parler ce matin. On avait l'impression, moi j'avais vraiment l'impression que c'était l'apanage des Américains. Romain.
Et pourtant Sonia, dans les années 60 et 70, le fantastique a été en France un genre télévisé, au même titre que les séries policières et même les reconstitutions historiques.
Ouais.
Il y a eu des adaptations de contes comme La Belle au bois dormant ou Alice au pays des merveilles, des adaptations de grands classiques comme L'île mystérieuse, notamment une version en 73 avec Omar Sharif dans le rôle du capitaine Nemo.
Bravo.
En 61, Jean Renoir, le grand réalisateur, fait pour la télévision Le Testament du docteur Cordelier, qui est une adaptation du docteur Jekyll et Mr. Hyde avec Jean-Louis Barrault dans le rôle principal quand même. Et puis il y a une histoire de maison hantée qui est un peu l'ancêtre de La Des Murs. C'était le jour de Noël 1974. La deuxième chaîne propose une adaptation télé du Tour d'écrou, l'œuvre d'Henry James avec Suzanne Flon dans le rôle principal.
Voilà, vous et moi, on n'était pas tout à fait nés.
Pas tout à fait.
Alors, quels sont les fleurons de cet âge d'or ?
Alors, il y a bien sûr l'inévitable Belphégor en 65. On cite aussi souvent La Poupée Sanglante, une histoire de vampire d'après Gaston Leroux, L'île aux 30 cercueils avec une ambiance envoûtante. Mais plutôt que ces feuilletons-là, moi je vais vous conseiller trois vraies séries. Alors d'abord, Le Tribunal de l'Impossible, 15 épisodes entre 1967 et 1973, une anthologie qui était au mystérieux et à l'étrange ce que La Caméra Explore le Temps était à l'histoire. Alors on y raconte des cas historiques inexpliqués, comme la bête du Gévaudan, Nostradamus ou même l'alchimiste Nicolas Flamel. À l'opposé complet, on a la série La Brigade des Maléfices, qui traquait le surnaturel dans la vie quotidienne.
La brigade des maléfices ne figure sur aucun document officiel de la préfecture de police. Personne dans le public ne soupçonne son existence et pourtant chaque jour s'étend le champ de ses activités. Bien des enquêtes menées par les plus fins limiers de la police judiciaire s'arrêtent soudain devant l'impossible, l'incroyable, le surnaturel.
Voilà, sourire entendu hein, de nos invités, Marc Herpoux, Hervé Edmar, ça vous rappelle des souvenirs de la Brigade des Maléfices d'enfance ?
De toute petite enfance,
d'accord. Ouais, donc ouais. Là, c'est plutôt les érudits qui parlent et qui ont tout revu avant d'écrire. Romain, la Brigade des Maléfices, donc.
C'est une série qui date de 1971 et qui suit deux policiers, un vieux sage un peu fantasque et son jeune assistant beaucoup plus terre-à-terre. À bord de leur sidecar, ils parcourent la capitale, 6 épisodes durant, à la poursuite du fantôme des HLM ou même d'un démon qui en envoûte ses victimes via leur poste de télé. Et c'est une série qui était écrite par le regretté Claude Jean-Philippe.
Ah bon ?
Tout à fait, le créateur du Ciné-Club qui a disparu il y a quelques semaines.
Voilà, qui vient juste de mourir. Quelques mois plus tard, c'était aux frontières du possible.
Exactement, 2 saisons, 13 épisodes. Alors là, c'est carrément beaucoup plus épique. Les enquêtes nous emmènent aux 4 coins du monde, sur les traces d'astronautes ou même d'hommes politiques. Et au centre de la série, c'est un duo d'enquêteurs qui viennent du Bureau international de prévention scientifique. Un homme et une femme à l'image de ce que seront Mulder et Scully 20 ans plus tard dans X-Files.
Bon, alors ça s'est quand même tari, tout ça. Ça s'est quand même arrêté dans les années 80. J'ai pas rêvé quand
non,
j'étais
vous n'avez
gamine.
Pas rêvé. Ouais. Tout ça, c'est dû à l'éclatement de l'ORTF et à l'arrivée des chaînes privées. Tout ça, ça n'a pas été tendre pour la fiction télé en général et surtout pour le fantastique qui a carrément trinqué. Et puis par ailleurs, la télé s'est avérée incapable de concurrencer les effets spéciaux du cinéma, surtout dopés par Star Wars. En revanche, les séries animées, qui sont une spécialité française, ont pris le relais. Il y a évidemment eu dans les années 80 Ulysse 31.
Et ça, je m'en souviens très bien.
Exactement.
Qu'est-ce que j'aimais Ulysse 31. Vous aussi
ouais,
c'était magnifique,
sûr,
hein ouais. C'était magnifique.
Qui a eu beaucoup de descendants, évidemment. Il y a la catégorie de l'humour avec Objectif Nul, avec un vaisseau spatial en ruine, bien évidemment. Mais surtout, pendant cette traversée du désert, il y a eu une série fantastique en prime time qui a fait et qui fait toujours un vrai carton. Ne riez pas, ça s'appelle Joséphine Ange Gardien. Mais c'est quand même une belle copie des Routes du Paradis. Mais c'est efficace.
C'est ça. Joséphine Ange Gardien, un modèle pour vous?
Non. Notre type de série.
C'est ça. Alors, on va plonger dans votre type de série. D'abord, on va la décortiquer, votre série. On va la visiter, cette maison hantée. Et puis, vous allez nous raconter quel est votre type de série, de littérature aussi, de cinéma, et puis peut-être de jeux vidéo.
L'instant M, avec Sonia De Villers.
Tu dois accepter la maison. Voilà, alors Au-delà des murs, c'est ce soir sur Arte. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai confié à Patrick Cohen. C'est quand même la première fois que je visionne une série les yeux fermés, les oreilles bouchées. J'ai pourtant tout vu.
C'est difficile.
Je me suis forcée et en même temps, Hervé Admar, vous me disiez on démarre dans l'épouvante et dans l'horreur. Et pourtant, petit à petit, et je vous l'accorde, on change de registre. Il y a une forme de glissement.
Oui, on est dans le genre fantastique. Mm-hmm. On glisse dans le conte fantastique. On glisse pas vers l'horreur. C'est pas franchement sanglant.
C'est pas franchement sanglant. Ça fait très peur au début et puis c'est de plus en plus émouvant et de plus en plus poétique. On va dire, Marc Herpoux, vous qui en êtes le scénariste, donc la maison évidemment hantée, c'est une constante. Elle est lugubre, elle est délabrée, elle est isolée. C'est évidemment le moyen pour un scénariste d'enfermer son personnage et de l'isoler du monde, de le couper.
Oui, Marco scénariste puisqu'on a écrit ensemble. Le but était de resserrer la tension dramatique autour du personnage, autour de Lisa. C'est d'abord l'histoire de Lisa, même si derrière nous avons beaucoup beaucoup travaillé la maison, surtout en amont au tout début, presque un peu trop, parce qu'on ne se rend pas compte ce que c'est 3 fois 52 pour Arte, c'est pas 6, c'est pas 8, ça va en fait très très vite. Et donc au début on est parti beaucoup sur la maison, sur la mythologie qu'il pouvait y avoir sur la maison, donc on a de la matière derrière nous.
Il y a quand même là-dedans tout un tas de codes, c'est-à-dire qu'il faut quand même dire que dans les films d'horreur, les héros vont sans sourciller, une lampe de poche à la main, là où le bon sens nous interdit d'aller. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand il fait tout noir, qu'on est tout seul,
faut pas y aller.
Et qu'il y a des cris derrière un mur, oui. On se tire en courant.
Mais il y a la curiosité quand même.
Il y a la curiosité que dans les films d'horreur.
Oui. Il y a la curiosité du personnage, puis il y a la curiosité du spectateur. Et je pense que ce qui fait aussi qu'on accepte, c'est qu'il y a une curiosité chez le spectateur qui, d'un seul coup, se transpose chez le personnage. Je ne sais pas comment ça marche.
Il y a deux styles de réaction différents. Quand j'étais enfant et que j'avais très peur la nuit dans mon lit, il y a deux solutions. Soit vous vous cachez sous les draps, vous fermez les yeux.
Ça, c'est moi.
Soit vous ouvrez, grand les yeux.
Vous ouvrez la porte et vous sortez dans le couloir.
Moi, je le faisais.
Et moi, je faisais ça.
Moi aussi.
Voilà.
Alors, qu'est-ce
qu'il y a ? Et je peux vous dire que j'avais très, très peur quand j'étais.
Tout au fond de cette maison.
Le corps de votre petite sœur dans l'eau. Vous l'avez cherché longtemps. Et vous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour être ici, dans cette maison ? Ça fait longtemps que vous êtes là, non ?
Ouf ! J'arrêtais de compter. Et vous allez voir. Vous aussi, un jour, vous arrêterez de compter.
Dialogue entre Lisa et Rose, l'un des personnages de ce film, magnifiquement interprété par Géraldine Chaplin. Marc Harpool, la maison hantée, c'est un lieu à la fois symbolique, physique et psychique. C'est évidemment le terrain de jeu du refoulé.
Oui, ben on l'a pensé vraiment comme une psychanalyse autour du personnage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a vraiment pensé à Lisa d'abord, et c'est ce qui nous a permis le parcours de Lisa, c'est ce qui nous a permis de faire le tri sur tout le champ des possibles qu'il pouvait y avoir dans la maison. Parce que le problème quand on ouvre comme ça une porte à l'intérieur de cette maison, c'est que tout est possible et il faut pas que tout soit possible, parce que si tout est possible, on se perd, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on se perd aussi le spectateur. Là, il faut que Lisa se perde, mais il faut pas que le spectateur se perde. Donc le parcours de Lisa, sa psyché était le moyen de nous de
avec l'idée de... que la maison hantée incarne la psyché, donc il y a évidemment tout ce qu'on a voulu cacher à la cave et tout ce qu'on a oublié au grenier. Non, mais c'est le ça et le surmoi freudien, une maison hantée d'ailleurs. Il va falloir que vos personnages descendent jusque dans les fondations. Hervé Edmar.
Oui, c'est ça. Il faut résoudre. Il faut que Lisa, qui est interprétée elle par Verle Battens, que vous avez peut-être vu dans Alabama Monroe, il faut qu'elle aille au fond d'elle-même, au fond de sa problématique. Il faut qu'elle résolve un trauma qui vient du passé, forcément, et qu'elle aille au fond de la maison, au fond d'elle-même, pour pouvoir s'en sortir.
Et d'ailleurs, cette Lisa, Marc Harpool, c'est un personnage assez intrigant, une fille assez seule. Ce qui est intéressant, c'est que elle est orthophoniste, donc c'est quelqu'un qui travaille sur le langage. Et quelqu'un qui travaille sur le langage, ben c'est évidemment sur la mise en mots, ce qu'elle manifestement n'arrive absolument pas à faire dans la vie. D'ailleurs, il y a très peu de dialogue dans un film fantastique, oui. Dans un film d'horreur.
Bah là, en l'occurrence, oui, on y tenait, puis c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc du coup, ça nous amusait beaucoup qu'elle soit orthophoniste. Oui, c'était le pari, c'était de se dire il faut rentrer en immersion. Faut que le spectateur plonge dans la série, et pour ça le mieux c'était que l'image parle avant les mots, et on tenait un petit peu comme ça. A été une référence à un moment donné, le travail de Polanski a été une référence, particulièrement le début de Répulsion, où on a affaire à une Catherine Deneuve un peu bizarre, un peu étrange, on sait pas trop. Alors il y a pas de fantastique dans Répulsion, mais c'était une bonne façon de s'attacher à un personnage sans qu'il en dise trop. Donc pendant les 20 premières minutes, on tenait comme ça à avoir un personnage assez silencieux, qui parle peu de soi, qui parle peu des autres, qui ment sur elle-même. Et oui, c'était un pari. Par rapport à la télé, c'est un pari, parce que d'habitude ça parle beaucoup à la télé.
C'est ça.
Et là, il fallait accepter que ça parle peu.
C'est ça. Alors, autre pari, ce décor, cette maison.
Il n'y a pas de fenêtre dans cette maison.
Non.
Mais comment ça? Elle est grande comment?
Mais j'en sais rien. J'en sais rien, d'accord? J'ai passé des jours à marcher dans cette maison, sans jamais repasser au même endroit, alors je n'en sais rien.
Mais c'est pas possible, ça. Une maison sans fenêtre, ça n'existe pas.
Alors, une maison sans fenêtre, ça existe ce soir sur Arte. Cette maison est un labyrinthe. D'abord, elle abolit les frontières les frontières du temps. Elle abolit aussi les frontières spatiales, mais elle abolit les frontières du temps. Elle mélange les morts et les vivants, elle mélange les époques. Du coup, Hervé Edmar, vous puisez dans toute une esthétique du 19e siècle, qui là est très référencée de manière littéraire, parce que Romain nous parlait d'Henry James, mais c'est tout le spiritisme du 19e siècle que vous faites ressurgir.
Totalement.
Dans cette série.
Je peux pas dire mieux. C'est exactement ça. Donc, c'est Poe, c'est toute cette littérature qu'on connaît plus
voilà.
ou moins par cœur. Mais...
Donc du coup, c'est des références architecturales, parce que évidemment,
vous
choisissez une esthétique très
Bien
particulière.
Sûr.
C'est dans les costumes aussi.
C'est dans tout. C'est dans chaque objet, chaque fibre. Enfin, il faut que tout fasse sens, tout simplement. Donc oui, on est dans ces références-là littéraires, cinématographiques. On est allé chercher aussi du côté du cinéma asiatique. On se souvient de films comme Dark Water ou Two Sisters, ou des films qui font, eux, vraiment, vraiment, vraiment peur et qui sont quelquefois vraiment, vraiment sanglants. Et puis, on est allé chercher, vous l'évoquiez tout à l'heure, le jeu vidéo avec Silent Hill ou Resident Evil.
Alors, c'est quoi l'idée du jeu vidéo intégré à cette série? C'est qu'on passe de pièce en pièce en cherchant des indices,
de niveau
quelque part.
En niveau, il y a des récompenses à la fin de chaque niveau. Il n'y a pas de boss, encore, mais bon, on pourrait... bon voilà, c'est l'idée d'évoluer, de passer des portes, passer des niveaux, apprendre de plus en plus sur la maison, sur soi, pour trouver la sortie.
Et puis il y avait une figure féminine aussi, oui, il y avait une figure féminine autour du personnage. Lara Croft, évidemment, on aimait ce personnage, on aimait que Lisa, petite chose fragile au début, parce que c'est comme ça qu'on la présente, devienne petit à petit une figure d'aventurière.
Alors Lara Croft pour le jeu vidéo, mais peut-être aussi Rebecca pour le cinéma ou La Maison du Diable. Pourquoi est-ce que la maison hantée est si liée à l'histoire de la femme et de la femme aliénée? Non mais c'est quand même toujours c'est des souvent, histoires de femmes. Hein.
Et souvent lié aussi à la maternité, à l'enfance ou au rapport à l'enfance également. Eh bien, je me pose la même question que vous. Mais en tout cas, je le ressens très fort. Et quand on est amateur du genre, on ressent ça très fort. Et quand on construit une histoire autour de ce genre-là, on n'a pas d'autre choix que d'y aller vraiment.
Alors, Hervé Annemar disait « Chaque objet, Marc Herpoux, il y a un objet qui revient. » Et c'est pas n'importe quel objet, puisque je disais qu'on abolit les frontières de l'espace et du temps. C'est une montre, une montre Gousset à l'ancienne. Et là, c'est Lewis Carroll. Et là, c'est Alice au Pays des Merveilles, non ?
Oui, c'était un petit peu... C'était pensé. Oui, il y avait quelque chose de très... on cherchait un objet auquel on puisse... Parce que là, c'est Julien, c'est l'autre personnage qui est possesseur de cet objet, auquel on puisse s'attacher, qui soit représentatif de quelque chose d'émotionnel. Donc c'est un objet qu'on lui a remis à un moment donné. Bon voilà, je ne veux pas non plus spoiler, donc je ne veux pas trop en dire autour de cet objet. Il y a une petite musique, il y a quelque chose d'attachant. Cette musique, à un moment, va illustrer sa disparition. Voilà, oui, les objets avaient, il y a le petit pendentif que porte, qu'elle retrouve. Les objets sont liés à des choses qui relèvent de la nostalgie, d'une forme de mélancolie. Il y a toujours un passé derrière l'objet qu'elle retrouve. Il y a toujours un passé.
Et puis il y a ce côté amulette, évidemment, voilà, avec lequel vous jouez. Vous avez parlé de petite musique, de la musique. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que des mots. Annemar, qui signe la réalisation d'Au-delà des murs. Le fantastique, ça tient beaucoup, beaucoup au travail de la musique et du mixage. Là, évidemment, la bande-son, c'est un mélange entre ces nappes qui sont physiques, qui sont envoûtantes. Il faut que ça vous pénètre.
Oui, c'est un travail énorme sur le son, sur le sound design. J'ai passé deux jours à régler le grincement d'une porte, choisir le bon grincement. C'est très compliqué. Faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit trop peu. Mais c'est passionnant à faire.
Ah oui, ça j'imagine. C'est aussi, vous vouliez ajouter quelque chose, Marc?
Non, c'est vrai que quelque chose que me disait Hervé, c'est que ça rejoint la chronique de Romain. Il y a un savoir-faire qui est un peu difficile à trouver aussi de notre côté en France, parce que plus on fait dans un genre, plus on a des gens qui savent faire. Et là, ça demande à être très très précis, parce que justement, c'est pas forcément, les gens sont pas forcément habitués. Là, j'entends les techniques. Sont pas forcément habitués à travailler sur ce genre, donc il faut être d'autant plus vigilant.
Alors là, il y a le travail du son, il y a aussi le travail de la photo. On pourrait citer votre chef-op.
Philippe Pifoto.
Pifoto, parce que la photo est magnifique. Donc c'est tout un travail aussi sur le clair-obscur, une série fantastique,
Hervé Annemar. Oui, il y a des codes, il faut les respecter. Et oui, il s'agit de ramener du mystère, du suspense. Donc vous servez évidemment de la lumière. On parle d'une maison hantée où il n'y a pas de fenêtre et où il n'y a pas d'électricité. Mais il faut quand même éclairer les comédiens. Donc ils se baladent avec des lampes torches et des lampes à pétrole. Voilà, il y a tout un travail, évidemment, sur la lumière, sur le son, sur la décoration. Mon chef déco s'appelle Hervé Leblanc, il est formidable aussi.
Alors, où Hervé Leblanc a-t-il trouvé cette maison, s'il s'agit d'une maison?
Non, il ne s'agit pas d'une maison, évidemment, c'est 4 mois de repérage. On a tout trouvé en Belgique et on a tourné dans une quinzaine de châteaux différents.
C'est-à-dire que vous n'avez pas reconstitué en fait cette maison labyrinthique, ça n'est pas un décor de cinéma?
Non. Alors on a amené des éléments de décor, il y a plein d'éléments de décor qu'on a rajoutés, mais les murs sont des vrais murs. Après on a effacé toutes les fenêtres Il y a beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Ouais. Donc, on a effacé les fenêtres, on a effacé un certain nombre de choses, on a amené des éléments de décor, mais ce sont des vrais châteaux.
Mais c'est formidable ce que vous racontez. C'est-à-dire que chaque fois que le personnage pousse une porte, elle pénètre dans un univers nouveau. En fait, ouais. Vous, en termes de tournage, à chaque fois que vous poussiez une porte, c'était réellement une maison nouvelle qui s'ouvrait.
Absolument, ouais. Ouais.
Le dernier mot.
Oui. Au départ, ça a été écrit en pensée tournée en studio. Mm-hmm. C'était totalement infaisable au niveau du budget. Et donc, ça a été un vrai plaisir de devoir réécrire en fonction des décors réels.
Voilà. Et des maisons que vous avez trouvées. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Au-delà des murs, 3 épisodes ce soir sur Arte.